Bienvenue à cette deuxième journée du colloque Einstein au Collège de France. Le premier exposé qui était prévu ce matin a été annulé à la dernière minute. C'est pour ça que la séance ne commence qu'à 10 heures. Tous les autres exposés auront lieu à l'heure qui est prévue sur le programme qui est là. Donc il n'y a aucun changement à part ce premier exposé. Ah oui, M. Joliot parlera avant Mme Langevin. Donc il y a une inversion de l'ordre des deux exposés, juste après la pause. Donc le premier exposé va être fait par M. Michel Patti, Einstein en voyage et les nouvelles perspectives de la physique dans les années 1920 et 1930. Voilà.
Je vais vous présenter un peu quelques actes de la vie d'Einstein qui me paraissent assez significatifs, mais je vais plutôt prendre mon texte tel que je l'ai préparé. La période que j'ai choisie s'étend de la fin de la Grande Guerre à la prise de pouvoir par les nazis en Allemagne. C'est l'époque d'une activité intense d'Einstein sur les deux plans, politique et scientifique, répondant à ce qu'il estime être un devoir, étant donné sa nouvelle et soudaine notoriété due au succès spectaculaire de sa théorie de la relativité générale par l'observation de la déviation de la lumière passant au voisinage du Soleil, observation effectuée au cours de la double expédition dirigée par Arthur Eddington à l'Équateur, en Guinée d'une part et au Brésil d'autre part, en 1919. Du point de vue politique, Einstein estime de son devoir de mettre cette célébrité au service de la cause de la paix et de l'entente entre les peuples et les nations, et il n'hésite pas à s'engager activement pour la reprise des relations de coopération culturelle et scientifique entre les différents pays, et ses voyages en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine, sont autant suscités par cette motivation que par le souci d'éclairer les nouvelles perspectives de la physique. Einstein fait partie, ou va faire partie dans la période dont je parle, dès le début de la commission de coopération culturelle, ou c'est plutôt commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations, aux côtés d'autres personnalités de différents pays. Et en général, ces invitations dans les différents pays seront, en particulier en Amérique latine, seront faites par des membres de cette commission. Aux côtés d'autres personnalités, parmi lesquelles Marie Curie, Henri Bergson, Romain Rolland, si je ne me trompe, etc. Du point de vue scientifique, les nouvelles perspectives ouvertes en physique par les avancées récentes auxquelles Einstein a grandement contribué ne se limitent pas à la seule théorie de la relativité générale et à ses prolongements, tels que la recherche d'une théorie unitaire de la gravitation et de l'électromagnétisme et les premiers éléments d'une science cosmologique, sans oublier leurs implications d'ordre épistémologique et philosophique et les débats d'idées qu'elles suscitent. Elles concernent également la physique quantique, qui porte sur une toute autre direction, celle de la constitution même de la matière atomique et plus tard subatomique, et qui connaît alors un développement décisif sur les plans tant expérimental que théorique. Einstein s'en préoccupait autant, sinon plus, dans ces années que de la première. Mais sa pensée effective dans ce domaine a été souvent mal comprise pour des raisons diverses, alors qu'il en fut l'un des tout premiers et principaux pionniers. Les deux préoccupations forment le fond des voyages d'Einstein, et l'on se voit sur un tel sujet tenu de ne pas négliger l'un, le politique, au profit de l'autre, le scientifique, ou inversement, sans pour autant les mélanger. La vie de la pensée, et de la pensée scientifique en particulier, est indissociable de la vie humaine, personnelle et sociale, et la pensée est tributaire de l'expérience vécue. Nous nous situerons dans le contexte de quelques-unes de ces invitations particulièrement significatives pour des conférences au cours de ces années-là. J'essaierai de mentionner à peu près tous les voyages importants, mais je ne pourrai peut-être pas être exhaustif, et le temps manque pour donner beaucoup de détails à chacun. J'essaierai de concentrer mes commentaires sur le fond à quelques-uns d'entre eux particulièrement significatifs, et évidemment, ce sera un choix plutôt subjectif. Ce sont les nouvelles perspectives de la physique saisies dans ce contexte qui nous retiendront pour l'essentiel, plus que la politique, mais enfin, on ne la négligera pas quand même, telles qu'on les trouve abordées par Einstein dans ses conférences, mais également dans ses notes personnelles ou dans des lettres à ses correspondants. Nous y retrouverons des caractéristiques de son style de recherche, la marque propre de sa manière de penser. C'est ce que je voudrais faire voir, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, parce que comme je ne pourrais pas donner beaucoup de développement au sujet, à la matière même des sujets que je vais traiter, donc je ne pourrais peut-être pas faire sentir suffisamment la manière propre de penser d'Einstein, précisément. Mais les articles que j'ai écrits sur ces sujets, ou mon livre « Einstein, philosophe », disons, ont détaillé ces choses-là et on peut s'y reporter. Einstein poursuit sa recherche et ses réflexions sur les problèmes rencontrés avec son style propre, qui est la marque de sa pensée scientifique et de ses travaux en physique. Elle inclut une dimension épistémologique qui interroge de manière critique les concepts et leurs relations liées au choix des principes physiques. Et cette dimension est la trace dans l'élaboration rationnelle et théorique entrevue d'une perspective philosophique sur la connaissance et ses significations. Je voudrais faire un bref rappel sur les contributions d'Einstein en physique, mais très bref, même je me demande si c'est vraiment nécessaire, du mouvement brownien 1905 aux approches de la physique quantique pour le rayonnement en 1905 et 1906, et pour les atomes 1907, montrant l'insuffisance de la théorie électromagnétique classique et la nécessité d'une théorie quantique, je crois qu'il a été le premier à le faire dès 1906, pour aboutir à la formulation par lui-même d'une théorie, ce qu'on a appelé la première théorie des quantas, ou théorie semi-classique des quantas, 1916, qui sera le point de départ des recherches de Louis de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Born, Jordan et même Dirac, qui devait aboutir en 1926-1927 à la formulation de la mécanique ondulatoire et de la mécanique quantique, dont Schrödinger a montré l'équivalence pratique. Dans ces années-là, en 1924-1925, Einstein va publier des articles très importants sur la statistique des systèmes quantiques, c'est-à-dire système quantique, ça veut dire soit du rayonnement, soit des atomes de spin entier, identiques, indiscernables, statistiques dites de Bose-Einstein, qui, avec parallèlement la statistique de Fermi-Dirac pour les électrons et autres particules de spin demi-entier formulées vers la même époque, va s'avérer l'une des propriétés indiscernabilité des particules identiques, va s'avérer l'une des propriétés caractéristiques majeures des systèmes physiques quantiques, avec un lien direct au principe de superposition, qui est ce principe pratique fondamental de la théorie quantique, qui n'est pas encore formulé au moment où je me situe, disons dans les années, début des années 20, ça le sera seulement en 1927. Mais ce fut surtout ensuite l'autre contribution, bien sûr, celle-là, je n'ai pas besoin d'en dire davantage que de simplement mentionner son nom, c'est la relativité restreinte 1905 et générale 1915, et premiers éléments de cosmologie. Mais ce fut surtout la relativité générale qui attira, malgré son apparente difficulté, l'attention d'un public de plus en plus large et qui fit la fulgurante célébrité d'Einstein. Du moins, presque aussitôt après l'annonce des observations astronomiques portant sur l'éclipse solaire du 29 mai 1919. Sa difficulté de cette théorie tenait d'une part à sa formulation mathématique qui paraissait plus aride que les autres théories de la physique. On n'avait pas vu encore l'aridité de la physique, de la théorie quantique. Et d'autre part, à ce qu'elle mettait à mal des notions familières telles que l'espace et le temps, la masse et l'énergie, tout, qui touchent à l'expérience commune et que l'on croyait naturelle, pour ainsi dire, non seulement conformes au sens commun, mais également justifiées par la théorie newtonienne de la gravitation, et donc définitivement acquises par la connaissance scientifique. C'est à vrai dire en premier lieu ce résultat d'observation, la courbure des rayons lumineux en provenance d'étoiles qui se trouvaient déviées par rapport à leur trajet en ligne droite quand elles passaient à proximité du Soleil, effet visible à la faveur de l'éclipse totale qui eut lieu donc en 1919 par le déplacement de la direction apparente de l'étoile et sur les photographies obtenues, puisqu'il existait la photographie déjà à l'époque, on voit l'étoile déplacée par rapport à sa position habituelle dans la même région du ciel quand le Soleil n'y s'y trouve pas. Donc la double expédition organisée par Arthur Eddington sous le patronage des sociétés royales britanniques a eu lieu à Principe sur les côtes de Guinée en Afrique et à Sobral dans l'intérieur semi-désertique de l'état de Ceará au Brésil. L'événement, cette éclipse solaire, fut enregistré sur des photographies dûment mesurées et analysées ensuite, montrant nettement, et surtout celles prises à Sobral parce que l'atmosphère du ciel avait permis des photos de meilleure qualité, le déplacement apparent des étoiles de référence par rapport à leur position dans le ciel, comme je l'ai dit. La déviation était conforme à la prédiction de la théorie d'Einstein et le résultat fut proclamé lors d'une réunion conjointe de la Royal Society et de la Royal Astronomical Society le 6 novembre 1919. La nouvelle en fut très vite propagée dans le monde entier, débordant très largement les milieux scientifiques et enflamma aussi bien, sinon davantage, le grand public profane, ce qui conféra à Einstein une soudaine célébrité. Mais cette éclipse solaire du 29 mai 1919, qui fut en quelque sorte l'événement précurseur de la renommée exceptionnelle d'Einstein, avait été précédé 3 semaines auparavant d'un autre événement d'une toute autre nature, humaine, sociale et historique cette fois, l'armistice du 8 mai 1919 entre les puissances belligérantes, scellant la victoire des Alliés au terme des 4 années terribles années de la Grande Guerre de 14-18. La défaite de l'Allemagne entraînant la chute du pouvoir impérial et l'établissement de la République de Weimar. Il s'agissait désormais, nous sommes en 1920-1921, de retrouver la voie de la paix et de la coopération entre les peuples. Cette nécessité, intériorisée et affirmée par Einstein, devait contribuer à donner une marque particulière à ses activités publiques de personnalités célèbres. La conjonction entre les deux événements de signification si différente fut assurément l'une des raisons de l'engouement du grand public pour une théorie scientifique à laquelle il n'avait pas encore véritablement accès. Il pourrait la voir assez vite, au moins dans ses grandes lignes, par toutes les publications de divulgation à différents niveaux, du niveau grand public au niveau des élèves et des universitaires, publications qui fleurirent dans toutes les années immédiatement suivantes et dont les auteurs furent des noms qui sont d'une importance assez considérable, comme Langevin et beaucoup d'autres, Von Laue, etc. La conjonction entre les deux événements, excusez-moi, un scientifique britannique resté anonyme décrivit à chaud à cette époque, la situation telle que lui-même et bien d'autres la voyaient, je vais donner cette citation, je m'en tiendrai là, le fait qu'une théorie formulée par un Allemand ait été confirmée par des observations effectuées par des Anglais a offert la possibilité d'une coopération plus étroite entre ces deux nations. Scientifically minded, je utilise le terme de la lettre parce que je ne sais pas si orienté scientifiquement ça serait, ou préoccupé scientifiquement ça serait un peu faible par rapport à ce que cela signifie. Il faudrait faire toute une périphrase et je vous en dispenserai. Indépendamment, j'ai fini la citation. Non, j'ai pas la, c'est là encore la citation, excusez-moi. C'est indépendamment de la grande valeur de sa brillante théorie, Einstein a rendu à l'humanité un immense service. Voilà un peu un résumé comment et pourquoi de la popularité exceptionnelle d'Einstein. Parce que jamais avant, on n'avait vu une personnalité du monde culturel ou scientifique aussi fameuse, aussi célèbre. Quoi qu'il en soit, Einstein ne s'entend pas à ce rôle symbolique passif, où on aurait pu le laisser. Mais il s'engagea résolument en faveur de cette action, dans nombre d'actions en faveur d'une coopération accrue entre les nations dans les domaines culturels et scientifiques, mais aussi généralement en faveur de la paix et de son maintien par des mesures au niveau international et même supranational, toujours revendiquer à partir de ce moment-là la nécessité d'établir un gouvernement ou au moins une autorité supranationale, mais aussi pour le progrès social et les droits des travailleurs et pour la liberté des personnes quand elles se trouvaient menacées. Dès 1919, il s'associa à un appel lancé à l'initiative de Romain Rolland, un appel aux travailleurs intellectuels contre l'abdication de l'intelligence pour retrouver une compréhension mutuelle pour le développement de la pensée et la recherche de la vérité et pour l'humanité considérée comme un tout. Bon, il est peut-être inutile d'insister sur les idées, les engagements politiques d'Einstein et leur nature, sur ses idées sociales, son progressisme, son cosmopolitisme, pourrait-on dire, dans le sens dont où Kant l'entend, dans son ouvrage qui a ce titre, son pacifisme, mais aussi, quand il l'a fallu et dès qu'il l'a fallu, son refus sans concession du nazisme et son engagement contre le nazisme et contre l'Allemagne devenue nazie. Puis, mais c'est une autre histoire qui se tient au-delà de notre période. Ça, il ne faut pas oublier non plus qu'après la Seconde Guerre mondiale, Einstein sera l'objet d'une persécution par le FBI et singulièrement par son directeur d'alors, Edgar Hoover. Au total, ce que l'on peut dire, c'est que Einstein porte une conception cohérente et qui témoigne de la lucidité, de l'authenticité de son engagement politique dans la société de son temps. Selon lui, pour lui, La question de la responsabilité du savant, ce serait tout un chapitre des idées d'Einstein et de sa philosophie. Elle implique la responsabilité du savant, elle signifie le partage des connaissances tant auprès des collègues, par l'information, par les réactions à susciter, par les autres contributions qu'auprès du grand public. Mais également, c'est une responsabilité sociale directe qui sera d'autant plus cruciale après la Seconde Guerre et à propos des possibilités de destruction des armes atomiques. Donc j'ai déjà parlé de la communication de coopération culturelle de la Société des Nations et de sa mise sur pied en 1920 en fait, et à laquelle Einstein accepta tout de suite de participer. Et maintenant, j'en viens au voyage d'Einstein dans cette période. C'est une période, dans les années 20 jusqu'aux années 30, jusqu'à la fin des années 30, et surtout dans les années 20, de voyages très fréquents, d'abord en Europe, au cours des années de l'après-guerre, de voyages réguliers de Berlin à Genève pour la commission de coopération mentionnée, et dans différentes villes d'Europe, dont je vais rapidement reparler maintenant. Et puis, d'autres voyages plus lointains, surtout de 1920 à 1928, mais nous irons jusqu'à 1938, dans des régions lointaines du monde. Alors, je vais suivre un peu la chronologie, très rapidement. En juin 1920, il visite évidemment la Norvège et le Danemark pour des conférences, et sa première rencontre avec Niels Bohr a lieu cette année-là, en 1920, mais non pas au Danemark, mais à Berlin. En janvier 1921, il se rend en Suisse et en Tchécoslovaquie, où il avait résidé, comme on sait, pendant plusieurs années avant la guerre. C'est à l'université de Prague qu'il avait trouvé son premier poste, la chaire de physique théorique, où lui succéda à son départ en 1912, et sur sa recommandation, Philippe Frank. C'est ce dernier qui le reçoit dans son laboratoire lorsqu'il s'y rend en 1921, son laboratoire qui était celui d'Einstein naguère. Frank se tournait alors également vers la philosophie dans la tradition d'Ernst Mach et se joindrait, ou s'était déjà joint, c'est à peu près à ce moment-là qu'il s'y joint, au cercle de Vienne, dont il deviendrait un membre éminent, ainsi que Rudolf Carnap et d'autres. Il se joindrait à la fondation de ce cercle, dont le manifeste, qui paraîtrait en 1929, revendiquerait parmi ses inspirateurs Albert Einstein pour la physique, je le cite, pour la physique. Parce qu'en fait, s'ils avaient connu déjà la philosophie d'Einstein, ça n'aurait pas été pour la philosophie d'Einstein, étant donné que Einstein marque nettement plus tard des désaccords avec le néo-positivisme. Donc, c'est ceci, Einstein est un de ses inspirateurs pour la physique, aux côtés de Wittgenstein pour la philosophie, de Poincaré revendiqué également pour les mathématiques, etc. Frank entreprendrait des années plus tard, après avoir dû émigrer aux États-Unis, où il fonderait un important département de philosophie des sciences à l'Université de Boston, que je n'évoque pas sans quelques nostalgies en pensant certainement à plusieurs d'ici, notre grand ami Robert Cohen, qui l'a animé pendant des années. Et il entreprit ensuite la rédaction d'une biographie d'Einstein parue en 1945, si je ne me trompe, est traduite en français. Nous le retrouvons en février de cette même année, 1921, en Hollande, à Amsterdam, où il participe au Congrès international des syndicats, portant sur la coopération internationale, où on lui a demandé d'intervenir. Et à Leyde, où enseigne son ami Paul Ehrenfest. Ehrenfest et son épouse d'origine russe, Tatiana, le reçoivent chez eux et ont de longues discussions sur la physique avec lui. Einstein prononce une conférence à la société Urani pour un grand public. L'université de Leyde le nomme professeur, avec pour seule obligation d'y enseigner quelques semaines par an. C'est à Leyde qu'il prononce la conférence sur l'éther et la théorie de la relativité. Alors on sait, il y a plusieurs de ces conférences que je vais évoquer ensuite. Elles sont en général liées à des voyages soit proches comme celui-ci, soit plus lointains. Et on verra que ces conférences sont tout à fait centrales, si on veut examiner l'épistémologie et la philosophie d'Einstein. C'est dans cette conférence qu'il indique la grande différence entre l'espace de la relativité restreinte, c'est un espace sans éther. Alors, comme je dis, entre l'espace de la relativité générale et celui de la relativité restreinte et celui de la relativité générale, que je vais évoquer après, mais l'espace de la relativité restreinte est un espace sans éther au sens d'espace absolu, mais aussi entendu comme simple contenant des corps dénués de contenu physique propre. Il n'est que relatif au corps, servant seulement de référentiel pour le mouvement des corps. La différence, donc, entre cet espace ainsi et l'espace de la relativité générale, qui n'est plus seulement un référentiel, qu'il est encore, bien sûr, mais qui porte un contenu physique engendré, qui est engendré et structuré par les champs de gravitation en chaque point de cet espace, qui détermine en chaque point l'élément de métrique, nous sommes dans un espace du continuum, l'élément de métrique DS2, et qui est donc pleinement physique. Et que l'on peut, pour cette raison, dit-il, qualifier d'éther, et même dans un sens cartésien. D'ailleurs, Einstein rapportera justement à Descartes la conception d'un espace physique dans un texte ultérieur. Cette conférence suscita des malentendus et servit d'argument aux détracteurs d'Einstein, qui dénonçaient son incohérence. Alors quoi, il est pour l'éther avant et puis après, contre l'éther avant et puis après il est pour, etc. Mais évidemment, il ne s'agit pas du même éther, et donc on saurait dire qu'il y a là un manque de cohérence, parce qu'Einstein lui-même insistait bien sur cette différence. À Vienne, où il est invité par le physicien Félix Ehrenfest, il donne une conférence devant un énorme public, c'était rare à l'époque, plus de 3000 personnes, et rencontre les héritiers intellectuels de Freud, Joseph Breuer notamment, ainsi que ceux de Marx autour de Popper-Linkeus. Je mentionne en passant ici la correspondance qu'Einstein établira vers la fin des années 30 avec Freud et qui est tout à fait intéressante, qui s'appelle « Pourquoi la guerre ?». Et en avril-mai 21, nous avons le premier voyage d'Einstein aux États-Unis. Il se rend à New York pour accompagner Chaim Weizmann et il fait figure plutôt d'assistant. Plutôt, ce n'est pas tellement pour lui, mais c'est pour une cause qu'il accompagne Chaim Weizmann, le dirigeant du mouvement sioniste, afin de recueillir des fonds pour la fondation d'une université hébraïque à Jérusalem, contribuant surtout par sa présence à améliorer le sort des persécutés. C'est la formule que lui-même utilise pour expliquer sa présence. Sa descente de la passerelle de débarquement est décrite par la presse, sa tête ébouriffée, sa pipe à la bouche et son violon dans son étui à la main, d'une manière qui évoque un de ces violoneux aériens tels que les pins Chagall. Il visita aussi des institutions universitaires et donna des conférences sur la physique à l'université de Princeton. D'ailleurs, conférences qui ensuite ont fait l'objet d'une publication et qui sont très importantes aussi pour évaluer exactement, pour s'informer en détail sur la pensée d'Einstein. Au total, outre le succès de la mission dont il était investi, donc de collecter les fonds pour l'université hébraïque, il reçut un accueil enthousiaste de la part du public américain. Même un accueil comme une grande vedette, enfin, c'était assez extraordinaire. Einstein rentre en Europe en s'arrêtant à Londres, à l'invitation de l'homme d'État Lord Haldane, dans la perspective de revivifier les relations avec l'Allemagne. Il se fait amener devant la tombe de Newton, devant laquelle il s'incline, ce qui a été considéré comme extrêmement significatif par toute la presse. Il donne une conférence au King's College et rencontre des personnalités aussi diverses que Lloyd George, Bernard Shaw, une rencontre assez fameuse avec Bernard Shaw, rapportée par ce dernier, et avec le mathématicien-philosophe Alfred North Whitehead, qui est l'auteur, comme on sait, avec Bertrand Russell, des Principia Mathematica. Et nous voici à l'année 1922. Rassurez-vous, c'est surtout les premières années sur lesquelles j'insisterai. Après, il achève, mais ce sont peut-être les années peut-être les plus typiques, les plus caractéristiques, parce qu'on est encore très près à la fois de l'annonce de l'éclipse et puis de la fin de la guerre. En 1922, il achève au début de l'année le premier article de sa recherche sur une théorie du champ continu unifié, gravitationnel et électromagnétique. C'est aussi l'année de son premier voyage en France après la Grande Guerre à Paris en mars-avril 1922, invité par le Collège de France à l'initiative de Paul Langevin. Il est inutile que je parle davantage, je suis sûr que hier il en a été beaucoup question, il en sera tout à l'heure encore question, pour donner des conférences sur ces théories. On sait très bien l'amitié intellectuelle et affective qui unissait Einstein et Langevin. Et quand je dis intellectuelle, c'est aussi bien sur les plans scientifiques que sur les plans politiques et sociaux. Ce voyage revêtait une grande signification en raison de l'antagonisme violent qui avait opposé la France et l'Allemagne depuis une cinquantaine d'années, y compris dans les milieux intellectuels et scientifiques. Dans un climat délicat, qui était celui d'une hostilité d'une partie des savants français contre un savant de Berlin, même s'il était de nationalité suisse et mal vu aussi par les militaristes allemands. Ni l'Académie des sciences, ni la Société française de physique ne l'invitèrent en 1922. Il n'a été invité que par le Collège de France, ce n'est pas rien bien sûr, mais par le Collège de France et par la Société française de philosophie. Quant à l'Académie de Berlin, pendant ce voyage, ses collègues académiciens de Berlin critiquaient, réprouvaient fortement l'acceptation d'Einstein de l'invitation à venir en France. Donc Einstein prit le risque de venir, fortement soutenu, parce qu'il avait hésité un moment devant l'hostilité de ses compatriotes, et il avait hésité, mais c'est seulement sur l'insistance très expresse du ministre allemand de la République de Weimar, donc il faut préciser que c'est la République de Weimar à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, Walter Rathenau, qui fut assassiné quelques mois plus tard, le 24 juin 1922, par un militant d'extrême droite. Autant dire nazi, mais le parti nazi n'existait pas à l'époque. Il donna plusieurs séances de conférences et débats au Collège de France, sur lesquelles, si j'avais le temps, j'insisterai parce qu'elles sont extrêmement instructives et très détaillées, très sérieuses, avec les meilleurs scientifiques français de l'époque qu'il présente sa théorie et qu'il dialogue. Et ces séances sont très importantes pour ensuite comprendre la teneur particulièrement riche et de haute qualité de la séance de la Société française de philosophie, où on trouvera à la fois des philosophes et des scientifiques. On trouvera Bergson, on trouvera tout ce qui compte le plus, si vous voulez, au point de vue des idées à cette époque-là en France. Et cette séance sur laquelle je n'aurai pas malheureusement non plus la possibilité, à cause du temps, de m'étendre, mais sur laquelle j'ai écrit aussi, la lire est un régal, parce qu'il semble que ce soit le compte-rendu. Il y a une mise en scène, on dirait qu'il y a une mise en scène, il n'y en a pas eu, mais il se trouve que les circonstances et les personnes présentes et la préparation qu'avaient constitué les débats au Collège de France permettent à cette réunion d'être d'une grande intensité, c'est-à-dire on ne perd pas de temps, on va directement au fond des problèmes, et on a des portraits bien typés, si l'on veut, par leur propos, des différents participants à cette réunion. Donc, je ne pourrais certainement pas y revenir ici, mais je voudrais insister sur l'importance particulière l'ensemble des manifestations qui ont eu lieu au cours de ce séjour en France d'Einstein. Au total, donc, ce fut un grand succès sur les deux plans, scientifique et politique, et Einstein en exprime sa satisfaction dans des lettres. Par exemple, on les trouve dans le livre tout à fait remarquable qui s'appelle Einstein on Peace, où on trouve, édité par Nathan, Otto Nathan, et où l'on trouve le détail de toutes les lettres d'Einstein portant sur ces questions de politique. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Einstein exprime sa satisfaction de ces échanges dans un article, bref, mais de la revue, une revue qui s'appelle Clarté, que venait de fonder Romain Rolland. Et donc, il a écrit dans cette revue un article d'une ou deux pages où il se félicite de son séjour en France. Puisque j'ai mentionné ce séjour en France, je voudrais dire qu'il reviendra au Collège de France pour une conférence en 1929. Et que ce nouveau séjour plus bref qu'il fera aura une importance particulière, parce qu'il y rencontrera longuement Élie Cartan, le mathématicien, et que ce sera le début d'une collaboration entre Einstein et Élie Cartan, collaboration qui aboutit à des travaux de l'un et de l'autre, et surtout qui nous permet de comprendre le cheminement d'Einstein en direction d'une théorie unifiée, et également qui nous permet de comprendre le rapport d'Einstein aux mathématiques. Alors je ne peux pas non plus, sauf peut-être au débat tout à l'heure, disons, en dire davantage, mais c'est une petite merveille de lire cette correspondance éditée par Jim Ritter et quelqu'un d'autre, je crois, sur la correspondance, la collaboration entre Élie Cartan et Albert Einstein, parce que ce sont deux savants qui sont l'un vraiment mathématicien et l'autre vraiment physicien, mais évidemment ayant pris les mathématiques, l'outil mathématique jusqu'où il fallait le prendre pour faire ses théories, mais qui n'est pas fondamentalement un mathématicien. Donc c'est le travail conjoint d'un mathématicien et d'un physicien qui est absolument passionnant dans cette correspondance. Cela étant, je devrais dire aussi qu'en 1922, il a eu l'occasion de rencontrer Élie Cartan, mais très rapidement dans le cours des débats au Collège de France, et Élie Cartan, ou même à une soirée chez Langevin, et Élie Cartan a essayé de lui parler de ses conceptions. Alors, ses conceptions, c'est la théorie qu'on appelle du parallélisme distant, qu'ensuite Einstein essaiera d'utiliser pour sa théorie unifiée, mais il ne saisira pas tout de suite l'intérêt, au point de vue formel, de cette construction, de cette élaboration. D'octobre 1922, alors je suis obligé de passer rapidement là maintenant, d'octobre 1922 à mars 1923, il effectue, je reviens en 1922, mais je reviens pour peu de temps, il effectue un voyage de 6 mois en Orient, à Ceylan, en Inde, en Chine, au Japon. Il existe par exemple sur l'Inde, il a eu l'occasion de rencontrer Rabindranath Tagore, par exemple. Le Japon, je voudrais mentionner le petit article qui a été ensuite publié en anglais de la conférence qui rapporte la conférence d'Einstein au Japon, qu'il avait prononcée en allemand et qui avait été traduite sur le moment en japonais, et qui ensuite a fait l'objet d'une publication en japonais. Il se trouve que dans cette conférence, il explique, il raconte comment il a créé la théorie de la relativité. Et il y a aussi dans cette conférence des éléments intéressants, mais je n'ai pas le temps de les détailler ici. En 1923, je crois qu'il faut quand même que je mentionne que c'est en... Oui, en 1923, il va en Suède pour recevoir le prix Nobel de 1921, et prononcer sa conférence Nobel à Göteborg en présence du roi de Suède. Et donc cette même année, il participe à Bruxelles au Conseil Solvay, auquel il avait déjà participé en 1911 et en 1917. Et je voudrais y venir tout de suite au séjour moins connu, mais de signification aussi très grande sur les deux plans des échanges culturels et politiques, et d'autre part sur le plan de la réflexion qu'Einstein mène sans cesse sur la physique et qu'il expose dans ses conférences, dans ses conférences. Par exemple, il a fait une conférence à Buenos Aires sur la géométrie et la physique, qui a une originalité tout à fait intéressante par rapport à ce qu'il avait déjà écrit et qui nous permet de mieux comprendre sa position sur la géométrie et la physique. J'y reviendrai dans un instant, rapidement. Et au Brésil, à Rio de Janeiro, à la naissante Académie des sciences, il présente un sujet dont il parle rarement dans ses voyages, c'est la physique quantique. Parce qu'il y a un sujet alors d'actualité qui est qu'une expérience est en cours qui, à ses yeux, a une grande importance. Et cette expérience, c'est l'expérience de Bott et Geiger, dont le résultat final sera obtenu en 1925, mais qui, je vais y revenir, donc je ne le dis pas tout de suite pourquoi ça a une grande importance pour Einstein, mais ça nous permet aussi de mieux relationner cette expérience avec une de ses revendications par rapport à la physique quantique qu'il ne cessera de faire, y compris plus tard, dans la période où il contribuera surtout au débat sur l'interprétation de la physique quantique. Oui, j'ai fini ? J'ai plus de temps ? Je vois pas le... J'ai bien mis ma montre. J'ai fini. Alors, je vais terminer comme ça. Après, il faudrait être... Non, je ne vais pas terminer comme ça. Je vais vous dire en deux mots ce qu'il y a dans la conférence de... ou ce que j'ai retiré de principal de la conférence sur la géométrie et, d'autre part, ce qu'il y a d'important dans sa conférence, son exposé sur l'expérience de Bothe et Geiger. Et puis après, je ne pourrai malheureusement pas vous parler du séjour de 1930 aux États-Unis. Mais enfin, bon, après, il y aura peut-être un texte écrit et à ce moment-là, votre fin sera apaisée. Donc, en Argentine, il a donné un exposé qui a été publié immédiatement en espagnol. C'était à l'Académie des sciences, également naissante en Argentine, à Buenos Aires. Alors, sur un exposé sur la géométrie non euclidienne et la physique, qui fait suite d'une certaine façon à son exposé de 1920 sur la géométrie et l'expérience et à ses conférences de Princeton où il parle bien de sa conception de la géométrie et de la nature de la géométrie quand on l'associe à un problème de physique. Pour lui, il y a mais je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est sa conception d'une géométrie pratique, c'est-à-dire une sorte d'interprétation physique de la géométrie mathématique, mais qui, à partir du moment où elle est reliée à des phénomènes physiques, devient une théorie physique. Donc la géométrie pratique ou physique d'Einstein, au fond, c'est la géométrie avec des référentiels qui vont être fondamentaux dans les développements de la théorie physique. Mais ce qu'il y a de caractéristique, alors ceci est lié ensuite aux débats qui ont lieu sur la nature de la géométrie et qui ont occupé déjà au XIXe siècle beaucoup de savants, y compris Poincaré, et dans la suite de ces débats, après la relativité générale, d'autres développements sont donnés, notamment au point de vue philosophique par le cercle de Vienne et au point de vue par Reichenbach en particulier et au point de vue de la physique par Einstein et quelques autres, mais surtout Einstein, il est intéressant de faire un rapprochement ou une différence entre le point de vue de Poincaré et le point de vue d'Einstein, par exemple, en 1900. Tel qu'il sera donné vers 1945-46. Donc là, ce qu'il y a de différent, d'original dans l'exposé à Buenos Aires, c'est que essentiellement, il prend le point de vue de la géométrie en prenant d'abord la physique, son travail, la relativité générale, et on discute quelle a été. On trouve la géométrie de Riemann, etc. Et là, il prend le point de vue inverse, c'est-à-dire il se place du point de vue de Riemann pour caractériser ce qu'est la géométrie en elle-même et comment ensuite on peut la faire travailler en physique. Donc c'est plus, à ce moment-là, plus qu'une application, c'est une manière de penser, si vous voulez, qui arrive et qui correspond vraiment à la pensée d'Einstein. Je ne peux que dire cela, mais j'ai développé ça davantage dans un article. Au Brésil, à l'Académie des sciences en voie de constitution, il propose un exposé assez inattendu de prime abord, puisqu'il porte sur une expérience en cours et sur un problème chaud de la physique quantique dont la théorie n'était encore qu'en gestation. Pouvait-on parler de propriétés de systèmes quantiques individuels ou seulement de comportements statistiques de tels systèmes ? Et l'expérience de Bothe et Geiger sur les corrélations entre l'électron et le rayonnement émis dans un processus de type effet Compton et sa réfutation de la théorie de cette expérience réfute la théorie proposée par Bohr, Kramer et Slater, théorie BKS, qui proposait un traitement purement statistique et qui disait que ça n'avait pas de sens de parler d'individualité d'un système physique dans le domaine quantique. Alors, en fait, l'expérience, et déjà c'est ce qu'Einstein pensait du résultat probable, l'expérience conclut qu'il y a bien une corrélation physique entre entre l'électron et le rayonnement émis. Ce n'est pas seulement une corrélation statistique, c'est une corrélation pour chaque événement. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut bien considérer qu'il y a une individualité d'un système quantique. Alors ça, c'est très important, et je terminerai là-dessus, puisque je n'ai plus de temps. C'est très important parce qu'une des grandes revendications d'Einstein par rapport à la physique quantique, c'est précisément que la mécanique quantique, la physique quantique, la théorie quantique, on devrait dire, c'est plus la mécanique quantique aujourd'hui, la théorie quantique, elle doit, si elle a vraiment une portée théorique profonde, elle doit pouvoir représenter un système physique individuel. L'autre revendication qu'il posait, qu'il posera plus tard, notamment avec son expérience de pensée d'Einstein, Podolsky et Rosen, et ça sera la localité. Il faut aussi que l'on puisse considérer localement ces systèmes physiques qui peuvent être considérés individuellement. Là, il perdra, puisque la physique est non locale, on le sait, hein, depuis notamment le théorème de Bell et les expériences d'Aspé et d'autres physiciens qui ont suivi. Mais l'aspect de la caractérisation individuelle, ça, Bohr, par exemple, le refusait. Bohr disait, ça n'a pas de sens, ça ne nous intéresse pas. Avec sa philosophie de l'observation, il ne prenait pas en considération cette idée. Alors que Einstein, avec ce que j'appellerais son réalisme critique, dans lequel il y a bien quelque chose de physique qui correspond à ce que l'on veut se représenter, eh bien, il avait affirmé la nécessité de l'individualité. Et déjà, donc, en 1925, cette revendication est présente. Je vous remercie en m'excusant d'avoir été trop long.